Jean chapitre 20, versets 24 à 31. Henri Poincaré, qui est un mathématicien, physicien, a dit des paroles remarquables un jour. Douter de tout ou tout croire sont deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de réfléchir. Verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, était avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt à la place des clous et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt. Regarde mes mains. » Avance aussi ta main et mets-les dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et Jésus a fait en présence, et Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Il existe plusieurs formes de doute. Comme par exemple, à l'été 2007, quand j'étais étudiant à l'université, j'ai travaillé dans un moulin à papier tout l'été. J'avais un contrat de 3 ans. Et puis avec moi, il y avait un autre étudiant qui était en génie physique. Très intelligent, très brillant, puis c'était probablement un des premiers de sa classe à l'écouter parler. Et puis à un moment donné, il a su que j'étais chrétien. Puis sur l'heure du dîner, à un moment donné, on travaillait ensemble, puis il m'est arrivé, puis il dit, « Ah, il dit comme ça, j'ai entendu que tu es chrétien. » Il dit, « Voici 3 raisons pour lesquelles je ne suis pas chrétien, puis je ne suis pas croyant. 1, 2, 3, il s'est levé, puis il est parti. » Mais ces arguments étaient tirés de la biologie, de la génétique, et je savais que s'il avait raison sur ce qu'il venait de me dire, ma foi était vaine. Et tout l'été, j'ai cherché, soit dans les textes bibliques pour essayer de concilier ce qu'il venait de me dire, ou de trouver une réponse à ce qu'il venait de me dire, et j'ai pu jamais travailler avec ce gars-là. Sauf la dernière journée de notre contrat. Et puis j'ai pu y partager, puis j'avais trouvé des réponses. Et le doute est en quelque sorte un doute de ma part scientifique. Je cherchais des évidences. Le doute peut provenir aussi de l'ignorance. Je peux penser, je peux le dire, il n'est pas ici, je ne l'ai pas vu, je peux penser à Martin Cartier, que voilà, quelques années, quand que je travaillais avant même que j'étais à l'université, je travaillais dans les cuisines, j'ai connu Martin Cartier. Et Martin, lui, quand je l'ai connu, il n'était pas chrétien. Et puis, à force de discussion comme ça, il posait des questions. Évidemment, il y avait les parents de Cynthia, puis Cynthia aussi, qui en parlaient. Mais soudainement, il venait d'avoir quelqu'un qui était peut-être un petit peu plus spécialisé dans certaines questions. Puis plus que ça allait, les semaines passaient, les mois passaient, les questions devenaient de plus en plus pointues. Et ma femme peut témoigner qu'on a veillé jusqu'à 1h, 2h et 3h du matin à plusieurs reprises. Et pour arriver à un moment donné, jusqu'à 5h du matin, où ce que là, on a passé en revue une panoplie de questions pertinentes. Puis à la fin, Martin m'a regardé, « OK, je vais devenir chrétien. » Et son doute, en quelque sorte, était le fruit d'une ignorance de certains fondements de la foi chrétienne. Le doute peut être aussi le fruit d'un choix philosophique volontaire. Et pour illustrer, j'ai trouvé cette citation de Fyodor Dostoïevski. Un véritable réaliste, s'il est incrédule, trouve toujours en lui la force et la faculté de ne pas croire, même au miracle. Et si ce dernier se présente comme un fait incontestable, il doutera de ses sens plutôt que d'admettre le fait. Ça peut être le fruit d'une décision de tout douter. Henri Poincaré disait que ça nous dispense de réfléchir. À ça, probablement qu'il a raison. Et j'ai trouvé d'autres citations que je vous exempte. Ça peut être aussi, je pense à nos jeunes. Un jeune qui a toujours vécu dans une famille chrétienne. Ça va bien, il a toujours suivi ses parents, puis soudainement, il arrive au cégep, et puis rencontre un professeur de sociologie ou de biologie, de mathématiques, ou peu importe, et puis commence à le remettre en question sur sa foi. Et sur une dizaine de fronts en même temps, ce jeune est assaillé d'arguments contre l'existence de Dieu, contre sa foi, et ce qui semblait si certain pour lui devient soudainement douteux, chambranlant. Et s'il continue à chercher, peut-être qu'il va retrouver justement cette position-là. Et ce type de doute, souvent, va faire partie du développement de ce jeune pour faire la distinction entre ce pourquoi il croit et ce qui le différencie de ses parents. Ça peut être le choix, plein de petits choix, à l'échelle microscopique dans notre vie, qui fait qu'un jour, les choix stupides plus les uns que les autres, qui fait qu'un jour, on doute de la foi chrétienne. Et on se lève un matin, on se regarde dans le miroir, puis on se dit, finalement, je n'ai jamais cru à toutes ces choses-là. Je travaille, le travail prend de la place, je viens de moins en moins aux réunions, je m'implique de moins en moins, ça fait un bout que je ne lis plus ma Bible, j'ai de la difficulté à prier, puis après un bout de temps, j'ai-tu vraiment cru à ça? Et c'est évidemment pas les seules marques de doute. Je peux penser, par exemple, au manque de sommeil. Il y a une crise existentielle et la liste continue. Ça peut être dans la comparaison de ma foi avec quelqu'un d'autre. Moi, j'ai travaillé dur, puis ça va mal dans ma vie. Puis lui, on dirait qu'il fait rien, puis ça va bien ses affaires. Puis je peux douter sur ma propre foi. Et le texte en avant de nous nous présente une forme de doute. Et pourquoi mentionner toutes ces causes au doute? Parce que les causes sont multiples. Les formes de doute sont multiples. Et donc, le remède ou la solution à chaque forme de doute va être individuelle, va être multiple. Et dans le doute de Thomas, Jésus apporte une réponse. Thomas est quasiment, dans notre culture, synonyme de doute. Espèce de Thomas, pour souligner que je veux des preuves tangibles, physiques, matérielles. Et je me suis fait souvent appliquer ce titre. Mais quelle sorte de doute anime Thomas? Et notre plan aujourd'hui, on va regarder le cri d'un sceptique désappointé. L'adoration d'un sceptique qui est étonné, puis la fonction du sceptique qui est converti. Le cri d'un sceptique désappointé. Thomas appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Dans l'Évangile de Jean, Thomas apparaît à plusieurs reprises, mais entre autres dans trois textes d'une grande valeur tout au long de l'Évangile de Jean. Premièrement, dans Jean chapitre 11, verset 26. Excusez, verset 16, où ce qu'il nous dit sur ce, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-nous aussi avec lui pour mourir? » Thomas est présenté comme quelqu'un qui, malgré le fait que Jésus commençait à recevoir de l'opposition, Thomas est celui qui incite les autres à aller vers Lazare, même si on cherche à faire mourir Jésus, pour que nous autres aussi, on meure avec lui. C'est un disciple de Jésus. Il est prêt à le suivre. Deuxième texte, Jean 14, versets 6, 5 et 6. Des paroles qu'on connaît bien. Thomas dit à Jésus, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin? » Et c'est à cause de Thomas qu'on a ces paroles qui sont mémorables. Et Jésus répond à Thomas, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Et le troisième texte, Thomas pose des bonnes questions. Notre troisième texte est dans Jean chapitre 20. Mais quelle sorte de doute cet homme peut-il avoir? Et le contexte nous montre qu'il s'agit d'un doute qui est produit par une extrême déception religieuse, de sorte qu'il ne veut plus être trompé à nouveau. Il est blessé dans son intimité, dans son être intérieur. Lui, il pensait avoir trouvé le Messie, il pensait avoir trouvé le Sauveur, puis il vient de tout perdre. Il s'est trompé en quelque sorte, ou il s'est fait tromper. Et Thomas n'est pas le seul à vivre ce type de doute. De croire une personne à un point d'être prêt à le suivre. Peut-être que c'est le cas de la personne qui vous a présenté l'Évangile. Vous avez mis une grande confiance dans cette personne-là. Puis elle m'en est tombée. Et dans sa chute, peut-être qu'elle a entraîné beaucoup de personnes avec elle. Peut-être que vous venez d'un milieu d'église ou c'est un pasteur ou un responsable d'église qui a exercé plus d'autorité qu'il aurait dû exercer. Et puis quand il est arrivé qu'il a chuté, il en a entraîné un grand nombre. Peut-être avez-vous été entraîné. Peut-être êtes-vous blessé de telle sorte que plus jamais je vais m'investir dans une église envers le corps de Christ parce que c'est trop grand. Il vit un désillusionnement. Et le verset 24 nous dit, Thomas était un des douze. Mais il n'était pas avec eux la première fois que Jésus est venu. En fait, Thomas, le texte ne dit pas où ce qu'il était. Mais il était exactement à l'endroit pour ne pas voir les choses arriver. Il était précisément à la place où ce qu'il n'a pas vu, Jésus réconforter, guérir et manifester son amour envers les autres disciples. Et voici le cri de ce sceptique au verset 25. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mes doigts à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Thomas veut une preuve personnelle. Il revendique ce que les autres en réalité ont vu, là. Il n'y a pas juste Thomas là, qui a été assailli de doute. Là. Il est présenté dans ce texte-là, mais les autres apôtres, là, où ce qui était quand que Jésus y était mort, crucifié, sont tous partis. Mais les Romains avaient trois façons de mettre à mort une personne. Et la crucifixion était la pire d'entre toutes. On fouettait, on flagellait le condamné avant la sanction et après la sanction. Ensuite de ça, il fallait qu'ils prennent le patibulum, la barre horizontale de la croix, et qu'ils la traînent jusqu'à l'endroit où il y avait le poteau vertical, que là, on enfonçait les clous dans ses bras, et ensuite de ça, on le hissait sur le haut de cette poteau. Et maintenant, il n'y avait plus juste une fonction à accomplir, avec des spasmes douloureux, musculaires, avec une perte de sang, la seule chose qui reste à faire, c'est tenter de respirer. Et voyant Jésus mort, avec la permission, Joseph d'Arimathée prend le corps et va l'ensevelir dans un tombeau. Et les disciples sont tous partis. Difficile à croire que le Messie aurait pu voir une telle mort? Ça se peut pas. Le Messie triomphe toujours. Il n'y avait pas de catégorie pour placer un Messie crucifié. C'était pas juste la crucifixion à cette époque du premier siècle. C'était pas juste synonyme de souffrance, mais c'était le niveau le plus élevé de honte. Et l'impression produite sur Thomas, sans doute, a été telle qu'il a subi un profond découragement. Et c'est ce qui explique probablement le fait qu'il n'était pas présent avec les autres apôtres la première fois qu'il est venu. L'adoration d'un sceptique étonné. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Le texte place la scène devant nous 8 jours après, c'est-à-dire le dimanche suivant la résurrection de Jésus. Et pour la deuxième fois, Jésus mentionne ces paroles « Que la paix soit avec vous. » Et immédiatement après, Jésus semble se tourner précisément vers Thomas. Et au verset 27, il dit, « Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » C'est pratiquement les mêmes mots que Thomas a utilisés, là. Mais Jésus n'était pas présent. Mais malgré que physiquement il n'était pas présent, il était présent. Et il apparaît au milieu, « Que la paix soit avec vous. » Et avance tes mains, touche, regarde, contemple. Et Thomas est placé devant 2 possibilités. La première, être incrédule. Et l'incrédulité, c'est de persister à douter malgré l'évidence. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, « Si je ne vois, je ne croirai pas. » Deuxième possibilité, crois. Douter ou avoir la foi. Cesse d'être incrédule. 2 possibilités. Jésus invite Thomas à ne pas accepter le doute en lui fournissant aussi ce qu'il a besoin pour ne plus douter. Et c'est une confession de foi au verset 28 qui est surprenante. Mon Seigneur, mon Dieu. Ça nous rappelle le premier verset de l'Évangile de Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean commence son Évangile comme ça, et pratiquement à la fin, on a cette confession de foi où ce qu'il nous dit, mon Seigneur et mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a vraiment voulu dire? Et j'aimerais faire 3 observations dans le texte. La première, on va regarder une mauvaise interprétation. Probablement parmi vous, dans votre entourage, vous avez des témoins de Jéhovah. Peut-être qui vous travaillez avec, c'est un voisin, vous avez eu des discussions, et il nous lance un défi en interprétant ce texte. Et évidemment, l'objectif n'est pas des ridiculisés ou encore des exclures, mais on veut les aimer. Mais quand même, ils ont quelques réflexions intéressantes qui vaut la peine de noter. Vaut la peine de noter parce que si on prend au pied de la lettre ce que Thomas dit, c'est qu'il appelle Jésus Dieu. Mais dans leur conception, Jésus, au mieux, est une divinité. Mais n'est pas Dieu. Et dans ce cas, Thomas a voulu dire quoi? Et il donne 2 interprétations généralement. La première, c'est que Thomas s'exclame de surprise. « Mon Seigneur! Mon Dieu! » Thomas, on sait qu'il y a plusieurs... Dans chaque culture, il y a des façons diverses, ces mots vulgaires et blasphématoires de s'exprimer. Mais Thomas, juif du premier siècle, dévoué, pieux, sa première parole aurait été blasphématoire. Mais ça soulève deux autres problèmes. Le premier, c'est que le petit mot « et » qui s'adresse contre cette expression. Fait que c'est comme si Thomas disait « Mon Seigneur, et mon Dieu! » Mais encore, ça voudrait dire que Jésus accepte l'adoration que Thomas lui donne. Deuxième interprétation, qui, elle, la plus véhiculée dans leur livre « Comment raisonner avec les Écritures », c'est une question-réponse. Puis ici, ils veulent expliquer le texte. Jean 20, 28 déclare, « Thomas répondit, mon Seigneur et mon Dieu. » Rien ne s'opposait à ce que Thomas appelle Jésus Dieu, si c'est bien là ce qu'il voulut dire. Cela s'harmoniserait avec des textes des psaumes que Jésus a récités, dans lesquels des juges puissants sont qualifiés de Dieu, petit d. Bien entendu, Jésus occupe une position de loin supérieure à celle de ses hommes en raison de sa position exceptionnelle vis-à-vis Jéhovah. Jésus est appelé le Dieu Fils unique. Par ailleurs, Isaïe 9,6 le qualifie en termes prophétiques de Dieu puissant, mais non pas de Dieu tout-puissant. Tout cela s'accorde avec le fait que Jésus est décrit comme étant Dieu, peut-il dire, ou un être divin. Je vais sauter plusieurs arguments et je vais me contenter d'en faire juste une, de façon assez claire. Faisons attention à comment qu'on formule l'argumentation. Il nous demande de considérer comme étant admis ce qui doit être démontré. En philosophie, on appelle ça une pétition de principe, ceux qui sont philosophes. C'est-à-dire, je vous l'illustre, la réponse est déjà orientée vers la conclusion. Si c'est bien ce qu'il voulut dire, mais, etc., etc., on voit que ça s'accorde avec le fait que c'est un être divin. On n'a pas expliqué le texte. On n'a pas expliqué en quoi ça... C'est très, très tendancieux comme interprétation. Mais quand même, la phrase qui suit le paragraphe nous dit ceci. Le contexte nous aide à tirer la bonne conclusion sur cette question. Et c'est ce qu'on va faire. On va prendre ce qu'ils nous disent et on va regarder le contexte. Il faut placer Thomas, ce récit, dans son ensemble de l'Évangile de Jean. Quelle confession surprenante! Mon Seigneur et mon Dieu! Pourquoi ces paroles? Pourquoi pas tout simplement « Jésus, t'es vivant! » Ou encore « Youpi! » Le contexte immédiat ne nous fournit pas beaucoup d'éléments qui nous inviterait à expliquer pourquoi qu'il utilise des paroles fortes comme ça. Et donc, il faut regarder l'ensemble de l'Évangile et on voit que Thomas était prêt à mourir pour Jésus. C'est un juif dévoué, pieux. Mais aussi, c'est qu'au verset, au chapitre 14, il pose la bonne question. Comment aller à Dieu? Et Jésus qui répond qu'il est le chemin et celui qui m'a vu a vu le Père. Mais Philippe enchaîne sur cette question. Mais Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Thomas est présent. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Des paroles étranges pour Thomas. Et plein de paroles dans l'Évangile de Jean, « Avant qu'Abraham fût, je suis », et c'est plein. Et Thomas, probablement pendant ces 8 jours, entre la première venue et la deuxième venue, ces réflexions ne susciteraient-ils pas cette réflexion de savoir qui est Jésus, finalement? Et on peut très bien s'imaginer ce que Thomas aurait pu penser dans un contexte comme ça. Les autres apôtres disent qui est vivant. Ben, ça se peut pas. Mais si c'était vrai, Qu'est-ce que ça voudrait dire? Et toutes ces paroles prendraient peut-être une signification nouvelle pour Thomas. Et ce qu'il découvre dans notre récit, c'est qu'il découvre quand il a touché Jésus, que Jésus n'est pas en rupture d'avec le Jésus qu'il a connu avant la résurrection. Avant. Puis après, c'est le même Jésus. Il faut prendre au pied de la lettre ce que Thomas dit dans une confession de foi qui nous surprend, « Mon Seigneur et mon Dieu ». On peut ne pas aimer ça, mais c'est ce qu'il dit. Juif du premier siècle, monothéiste, il croyait dans ce que nous, on appelle l'Ancien Testament. C'était la Bible pour eux. Appelle Jésus « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il n'est probablement pas arrivé à ce que nous autres, on a appelé avec le temps la Trinité. Mais il est arrivé à une conclusion de telle sorte que c'est Dieu qui nous a visités. Et c'est tout le chapitre 1. Dieu qui prend la forme d'un homme. Troisième observation. C'est une confession de foi extrêmement personnelle. « Mon Seigneur, mon Dieu ». Il est marqué à deux reprises du terme « mon ». Les vrais enfants de Dieu confessent de façon personnelle « mon Seigneur et mon Dieu ». Il ne dit pas « notre Seigneur et notre Dieu ». L'Évangile de Jean nous dresse un portrait dans lequel le croyant a la vie. Et il est bien de savoir que Thomas a vu puis qu'il a cru de cette façon-là. Et croire est toujours intime, relationnel, personnel. La fonction d'un sceptique converti. Et ces mots ont fait couler beaucoup d'encre. Verset 29. Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et Jésus a fait en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. On m'a déjà appliqué ces paroles à peu près dans ces mots-là. Pourquoi cherches-tu tant de preuves sur tout? Pourquoi fouiller tout le temps? L'important, c'est d'avoir la foi. C'est ça que Jésus dit à Thomas. « Heureux celui qui n'a pas vu, mais qui a cru. » Et selon cette interprétation, avoir une foi qui ne se base pas sur l'évidence ou même à la limite sur quelque chose qui est vrai est plus spirituel. Mais je dois rejeter vivement cette interprétation. Thomas était-il heureux? Parce qu'il a vu? Sommes-nous tous appelés à avoir une foi inintelligible pour atteindre le bonheur? Il est difficile d'arriver à cette conclusion, surtout quand on considère toute la somme des évidences que Jean veut nous donner en relief, y compris le récit de Thomas. Une des raisons pour lesquelles on interprète ce texte comme ça, c'est parce que le mot « foi » qu'on utilise dans notre culture n'a pas la même signification que la foi dans la Bible. La foi dans notre culture a souvent ces deux significations. La première, ça peut être synonyme de religion. Il y a plusieurs religions, il y a plusieurs fois. Mais le plus souvent, ce qu'on entend, c'est que c'est un choix ou un engagement personnel, religieux, subjectif. Les évidences, la vérité, ça n'a pas d'affaire là-dedans. C'est un choix individuel. Ce que tu crois, c'est correct. Il est certain que la Bible nous met en présence d'évidences et jamais qu'il nous demande de croire quelque chose qui n'est pas vrai. Et d'ailleurs, le récit de Thomas, c'est un récit dans lequel on voit un témoignage. mais c'est un récit dans lequel on peut observer et valider certaines choses. Et la Bible ne nous appelle jamais à croire quelque chose qui n'est pas vrai. La foi chrétienne est plus que l'adhésion de croire que Jésus est ressuscité, mais c'est jamais moins que ça. Et c'est pour ça que l'exposition claire de la parole et la défense de la foi chrétienne comptent parmi les moyens d'édifier la foi. Et il serait surprenant que Jésus insère un élément qui ferait en sorte qu'on puisse comparer. Ah, Thomas, lui, est moins spirituel. Hey, moi, je suis plus spirituel, puis moi, je suis plus. On douterait, là. On pourrait douter avec cette interprétation-là sur ma propre foi. Mais faisons un petit pas de plus. On sépare souvent le verset 29 du verset 30 et 31. Et on a fait du verset 30 et 31 le but de l'ensemble de l'Évangile de Jean. Jésus a fait encore beaucoup en présence de ses disciples, beaucoup, mais ceci a été écrit afin que vous croyiez. Et on dit que c'est pour l'ensemble de l'Évangile de Jean. Dans un sens, c'est vrai. Dans un sens, c'est vrai. Et on voit le chapitre 1, le prologue, les 18 premiers versets, nous présentent qui est Jésus. Ensuite de ça, il y a les témoignages avec les apôtres. Et immédiatement après, il y a les noces de Cana. Et en conclusion des noces de Cana, il nous est dit, en 2:11, « Tel fut à Cana, en Galilée, le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Et le verset 31 nous dit, « Mais ces choses ont été écrites. » Mais de quelles choses est-ce qu'il parle? Des choses du verset 30. Jésus fait encore plusieurs miracles. Et ces miracles commencent au chapitre 2 et sont dans tout l'Évangile de Jean. Et en ça, c'est vrai. Mais quand même, l'auteur lit les versets ensemble intimement. 29, 30, 31 sont liés ensemble. Suivons la pensée. Jésus sait, puis Jean sait, que Jésus va quitter cette terre, puis qu'il y a des millions de personnes qui vont venir à croire que Jésus est ressuscité, mais qui n'auront pas ces preuves, comme Thomas a vu. Et sur quelle base ils vont croire? Est-ce qu'ils vont croire? Jésus dit que ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru sont heureux, parce qu'il n'y avait pas d'évidence. Du tout, jamais. Il enchaîne sur ses paroles. Il a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres choses. Mais ceux-ci, y compris l'apparition de Thomas, sont écrites afin que vous croyiez que le Christ est ressuscité. Vous qui verrez jamais. Et comment qu'on va croire? Sur la base d'un témoignage dont Thomas fait partie. C'est les rapports des premiers croyants. Et Thomas s'inscrit lui-même dans cette série de preuves qui attestent la validité de la foi chrétienne. Et au moyen de sa confession de foi, au moyen de son témoignage, on est édifié encore. Et des millions de personnes à travers les âges sont édifiées, nous qui n'avons pas vu Jésus physiquement. Il ne serait pas approprié pour moi de terminer sans quelques applications. On a soulevé des questions importantes dès le début concernant le doute. Et le récit, malgré qu'il parle de Thomas, en réalité, il est inséré dans ce qu'on appelle un évangile, l'évangile de Jésus-Christ. Et le texte nous parle de Jésus. Et quelle est donc cette réponse de Thomas à ce doute de déception amère, extrême, de cette blessure dans son être? Et on peut facilement élargir à toute forme de doute. Comme par exemple, pour reprendre mon premier exemple de doute, tout l'été, pendant que je cherchais des réponses aux objections qu'il m'a données, j'ai appris plein de choses. J'ai cherché, ma foi s'est fortifiée. Et puis j'ai prié là-dedans. Seigneur, il faut que je témoigne à ce gars-là au moins une fois. Et la dernière journée de travail de notre contrat, j'ai pu travailler avec ce gars-là. La dernière journée, je n'en revenais pas. J'ai dit, Seigneur, tu as dit des choses, il faut que je lui parle. Je suis allé le voir, j'ai dit, j'aimerais t'exposer moi aussi pourquoi que tes arguments ne sont pas valides, premièrement. Deuxièmement, je vais te donner les arguments pourquoi moi je suis chrétien. Puis quand on a fini la discussion, il m'a dit des paroles que je pense que je vais me souvenir toute ma vie. Il dit, écoute Jean-Luc, il dit probablement que je vais mourir puis que tu vas avoir raison. Il dit, ça fait 2000 ans que vous existez, que vous proclamez ça, avec des témoins. Là. Puis nous autres, ça fait 50 ans qu'on a un modèle en physique, puis il faut le changer parce qu'il n'est pas bon. Lui, il s'est mis à douter. Mais comment réagissez-vous face au doute? Il y a deux possibilités. Incrédule, malgré l'évidence, je peux continuer à douter. Mais si on cherche, on croit. Et dans tout ça, malgré que je suis quelqu'un qui aime la création, j'aime ça d'en parler, j'aime ça d'en débattre, mais pendant tout cet été-là, je me rappelle encore très bien qu'il y a un élément qui m'a tenu à la foi chrétienne. Juste un. Juste un. Tu peux remettre en doute tout mon modèle physique de l'univers. Ça, c'est une chose. Mais comment expliquer la résurrection de Jésus? Je suis prêt à l'expliquer. Même si mon modèle physique n'est pas bon, là, comment expliquer qu'il y a des vies qui sont transformées avec ça, avec la résurrection? On a mentionné aussi cette forme de doute qui est produite par une déception religieuse. Et en fait, c'est la forme de doute qui est la plus dangereuse et drastique. Un doute qui provient d'une blessure dans notre intimité. Si Dieu est bon, pourquoi? Pourquoi? Le Québec a connu son lot de vies brisées à travers une religion, des religions, qui ont anéanti des vies et des foyers. Le Québec est entré dans une noirceur spirituelle parce qu'on a voulu tout rejeter à cause des scandales qu'il y a eu, en partie. À un moment donné, il faut qu'on se dise les vraies choses. L'Église évangélique est-elle différente? Beaucoup de chrétiens ont laissé la foi à cause d'une personne qui l'estimait beaucoup. Puis j'en connais qui sont proches de moi. J'ai entendu dans les dernières semaines des histoires d'horreur sur ça. Le doute, c'est pas juste pour les élites intellectuelles dans les universités. Là. C'est nous autres, ça. C'est la vraie vie. Là. C'est nous autres. Là. Si vous avez jamais douté, là, attends un peu, ça s'en vient. On dirait, pour ma part, on dirait que c'est ma spécialité. Là, mais ça nous implique tous. Et quand on souffre, quand on est blessé, quoi faire? Quoi dire? Quelle aurait été la réponse de Jésus dans ce texte? J'aimerais vous avouer quelque chose aujourd'hui. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse tout faite qui peut immédiatement enlever puis mettre un baume dans le cœur d'une personne. Mais je connais Jésus-Christ. C'était ça la réponse à Thomas. Il s'est donné lui-même. Jean écrit à des chrétiens. Pourquoi qu'en tant que chrétien, c'est important qu'on regarde à Jésus? Le texte le dit. Afin qu'en croyant, vous ayez la vie. Cette vie abondante dont il parle tout au long de l'Évangile de Jean. Thomas aimait Jésus. Et c'est un récit d'amour de Thomas envers Jésus, mais de Jésus envers Thomas, qui l'a aimé, qui est venu le réconforter, qui a donné une solution. Jésus est lui-même le remède. ne refusez pas de croire à Jésus parce que vous avez été blessé dans le passé. On est des pécheurs qui parlent à des pécheurs. Là. Et c'est peut-être une erreur que vous avez faite de penser qu'il était peut-être parfait. Là. Puis là, vous venez de le découvrir. Là. Mais Christ l'était. Jésus est le remède. Il s'est donné lui-même. Et j'aimerais vous parler encore pour un instant qui va nous servir de conclusion. J'aimerais vous parler encore de Jésus. Et je vais vous lire la dernière page de mes notes. Seul et abattu, fuyant ce défunt de la plus grande honte, comment expliquer? Que de doutes les assaillent? Comment concevoir que le Sauveur soit disparu? Quelques jours passent et voici les femmes venues au tombeau pour mettre des parfums pour honorer leur maître. Elles sont dans la plus grande tristesse. Les larmes coulent, les pensées s'entremêlent. Et voici qu'on entend que le corps n'est plus. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Souvenez-vous de quelle manière il a parlé quand il était en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré, crucifié, qu'il ressuscite le troisième jour. » Avec stupéfaction, elle retourne chez elle, ne comprenant pas, les larmes coulent, les pensées s'entremêlent. Voici le cri du cœur. Où est-il? Rapportant ces paroles aux apôtres, on se précipite vers le tombeau vide, contemplant la scène avec stupéfaction de ces bandelettes enveloppant le corps de ce roi disparu comme une chrysalide vide. Il fallait qu'il ressuscite. Ne pouvez-vous pas le croire? Vous êtes si lent à croire. Il devait en être ainsi. Les prophètes l'ont écrit. Le Christ devait souffrir. Il prit le pain et le rompit. Leurs yeux purent enfin le voir. Il ne voulait pas de cette foi facile basée sur ce que l'on ressent pour simplement se contenter. Non, je ne croirai pas, à moins que je ne voie la marque dans ses mains, que je mette mon doigt à la place où étaient les clous. Jésus vint dans ce lieu clos et fermé. Ne doute plus et mets ta main dans mon côté. Regarde, touche, mets tes doigts dans les marques de mes mains et comprends que je suis la résurrection et la vie. Béni es-tu parce que tu crois ces choses. Cette foi que tu vois, Thomas, et vous, est active. Elle réfléchit, questionne. Mais elle est aussi créée pour contempler. Ses bandelettes sans son maître manifestent et témoignent la gloire de ce tombeau vide. Le doute peut arriver sous ses multiples formes, tant de questions que nous ne pouvons répondre. Mais devant la splendeur des marques d'un roi crucifié, revenu à la vie, cela n'a aucune importance. Je sais que c'est vrai. Permettez-moi d'illustrer. On peut me demander, prouve-moi la beauté d'un arc-en-ciel. Et je pourrais vous décrire cet arc-en-ciel. Il y a du rouge, du vert. Et vous pourriez me répondre, mais je n'aime pas le rouge et le vert. Mais si vous pouviez le voir dans l'arc-en-ciel, c'est vraiment magnifique. Comment être insensible à la beauté d'un arc-en-ciel? Dès qu'on le regarde, je n'ai pas besoin de vous convaincre, parce que vous sauriez. De même, vous pourriez me demander, prouve-moi que Jésus est vivant, plein de gloire et de beauté, que ce roi raillé de tous est digne d'adoration, afin que moi aussi je dise, mon Seigneur et mon Dieu. Je peux vous le décrire. Il y a des bandelettes vides, des trous dans ses mains, dans son côté. Mais cela ne me convainc pas. Mais si vous pouviez voir Jésus, vous verriez qu'il est vivant et glorieux. Comment être insensible à ce roi crucifié? Pour toi, quand on regarde Jésus, malgré une vie troublée, je n'ai pas besoin de vous convaincre. Ses blessures ont porté nos péchés afin d'avoir la vie. Ne doute plus. Regarde les marques que je porte pour toi. Heureux ceux qui ont cru. En son nom, nous avons la vie. Que la paix soit avec vous. Amen. Le Seigneur vous bénisse.